Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
À la une, clôture hier à Mbujimayi de la 8e édition du forum Makutano. Présent à ses assises, le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée. Intensification des combats hier entre les FARDC et le M23 dans le Rutshuru au Nord Kivu. Le trafic Rumanga-Borubare est resté coupé hier. Le député national Emmanuel Ngarouye, élu de Rutshuru, tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire catastrophique dans cette région, situation consécutive à ces affrontements. Et puis, c'est demain samedi, la cérémonie de tirage au sort des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Isidore Nkwanja, directeur national des 9e Jeux de la Francophonie. Madame, Messieurs, bonjour. Je reste engagée à promouvoir l'émergence des champions congolais. Ces propos sont du chef de l'État jeudi à Mbujimayi à la clôture de la 8e édition du forum Makutano. Félix-Antoine Tshisekedi a souligné que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée. Il a aussi rassuré le secteur privé de l'accompagnement du gouvernement congolais. On écoute le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cet extrait proposé par Alain Hiro.
La 8e édition du forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement ainsi que les réformes structurelles en cours visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner.
Par ailleurs, numériser les conducteurs professionnels en RDC, c'est le but du projet Usalama, dont le lancement est intervenu hier jeudi à Kinshasa. Selon les organisateurs, ce projet, qui est une initiative de la Fédération des entreprises du Congo et de la société IGS Global Africa, se situe dans le contexte du partenariat public-privé. La cérémonie officielle était présidée par le ministre des Transports et Voies de Communication et reportage de Paul Matendo Mayamba.
Pour les directeurs de la société IG Est Global Africa, l'objectif de cette numérisation est d'obtenir un répertoire de tous les engins roulants ainsi que de leurs conducteurs. Coco Ikumba.
Ici, le projet Usalama voudrait aider au gouvernement d'avoir un répertoire national de tous les engins roulants et un contrôle numérisé, un contrôle dématérialisé. Nous voulons ici aussi avoir un répertoire de tous les chauffeurs professionnels, c'est-à-dire les chauffeurs qui vivent de travail de conduite des véhicules comme profession.
La Corporation des transporteurs professionnels estime que ce projet permettra également de mettre un terme à la concurrence déloyale, comme le dit Hilaire Njaté, président du comité des transporteurs.
Nous observons qu'il y a beaucoup des électrons libres qu'il faut remettre dans le secteur et cela c'est pour combattre surtout la concurrence déloyale. La concurrence déloyale c'est quoi? Si vous avez quelqu'un qui ne paye pas les taxes convenablement, qui ne paye pas convenablement ses travailleurs et qui n'a pas de charges, il peut brader le prix comme à sa volonté.
Pour Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, cette initiative va permettre de créer une base de données des opérateurs du secteur.
À Matadi, au Congo central, nous apprenons que près de 1000 personnes œuvrant dans le secteur informel ont été escroquées par Mduka. C'est une prétendue structure de microfinance œuvrant à Kinshasa. Depuis quelques mois, des supposés employés de cette structure ont pu récolter 10 dollars à chaque client comme mise pour souscrire à un crédit de 450 dollars remboursable pendant un an. Ce réseau a été démantelé par les services de sécurité et mis sous mandat d'arrêt provisoire. Nana Plurich Mambou nous en dit plus.
La prétendue structure des microfinances Mduka aurait son responsable au niveau national à Kinshasa. Elle a commencé à percevoir la mise de 10 dollars auprès de plus de 800 petits commerçants pour souscrire à un emprunt de 450 dollars par personne, remboursable pendant un an. Les personnes qui ont placé leur mise ont soupçonné les responsables locaux de cette structure d'être des escrocs au regard des dernières explications selon laquelle les crédits sera accordé par groupe et non par individu. C'est ce qui les ont poussés à demander d'être remboursés. Les services urbains disent méconnaître cette structure dans la ville de Matadi. Ils ont appréhendé trois prétendus employés de Mduka lors d'une session de formation organisée dans la salle Tsona dans l'objectif de calmer les esprits surchauffés de ces petits commerçants. Et séance tenante, la police et l'autorité urbaine les ont escortés jusqu'à la banque pour récupérer l'argent et rembourser tous les plaignants. Mais malheureusement, les comptes bancaires de la structure Mduka n'avaient qu'un solde de 1700 dollars. Les trois responsables de cette structure de microfinance ont été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Ce jeudi, ils passeront leur première nuit à la prison centrale de Matadi. Pour ce faire, le maire de Matadi, Patintou Jiwamakengedi, appelle la population à ne pas prêter du crédit aux vendeurs d'illusions qui s'installent dans la ville sans autorisation des services compétents. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans le titre, au Nord Kivu, la situation est restée tendue et imprévisible toute la journée d'hier jeudi dans le territoire de Rutshuru. Les combats se sont intensifiés dans la matinée entre les FARDC et le M23 dans plusieurs localités du dit territoire. Le trafic routier sur la nationale numéro 2 est resté quasiment coupé toute la journée entre Rumangabo et Rubare, théâtre des hostilités. Entre-temps sur terrain, ces affrontements entre les FARDC et le M23 ont créé une situation humanitaire préoccupante et catastrophique dans le territoire de Rutshuru. C'est le député provincial Emmanuel Ngarouye qui tire la sonnette d'alarme. L'élu de Rutshuru recommande notamment au chef de l'État et au chef d'état-major général des FARDC d'installer leur état-major à Goma pour suivre de près cette situation. Les propos d'Emmanuel Ngarouye recueillis par Alain Romouchinj.
La situation humanitaire à Rutshuru présentement, elle est catastrophique, elle est déplorable. À la suite des affrontements entre les FARDC et les groupes terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise et ougandaise, toutes les populations sont obligées de fuir dans toutes les directions. Ces populations, malheureusement, qui fuient, sont constituées à 80% par des déplacés qui avaient encore fui les affrontements dans leur milieu anciennement conquis par ces mêmes terroristes. Et aujourd'hui, c'est le tour de la population de Kalengera, de Rubare, de Kako, qui s'ajoute à celle de Ntamugenga, de Matebe, de Rangira, qui avaient fui, et de Busanza. La population aujourd'hui fuit dans tous les sens, les uns en direction de Goma, les autres en direction de Mabenga, les autres en direction de Binza. Les femmes enceintes, les femmes, les enfants, les vieillards, sont tous sur la rue, sans manger, sans boire, et sans savoir où elles se dirigent.
En Ituri, les groupes armés Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, et la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI, s'engagent à enterrer l'âge de guerre, à œuvrer pour le développement de leurs entités respectives. Ils l'ont fait savoir mercredi au cours d'une rencontre avec des notables des chefferies de Walendu Bindi et Bira à Songolo, à 80 km de Bunia, dans la chefferie de Walendu Bindi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu qui a facilité ce dialogue exhorte ces deux groupes armés qui sont par ailleurs engagés dans le processus de paix en cours en province à respecter leur engagement pour permettre le retour de la paix dans leur milieu. Le point avec Ezekiel Mousalia.
C'est dans un climat de confiance et de fraternité que cette rencontre a eu lieu à Songolo. Son but était de pérenniser les acquis de la paix dans les entités Bira et Ngiti où sévissent ces deux milices. Les notables de ces deux entités ainsi que les leaders de la milice Front Patriotique Intégrationniste du Congo et ceux de la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI ont décidé de se mettre ensemble autour d'une même table pour résoudre les différends qui les opposent depuis plus d'un mois. Pour le porte-parole de la FRPI, Munobi Albert, je cite, cette mesure de cohabitation pacifique doit être prise par tous les membres de la milice FRPI afin de rassurer la protection des civils Bira et Ngiti dans les entités sous contrôle de la milice FPIC. Fin de citation. C'est aussi le souhait manifesté par le colonel autoproclamé du FPIC, Dakana Bokiza Barnaba. Le colonel Siro Simba, administrateur du territoire d'Irumu, appelle ces deux groupes armés à initier les séances de sensibilisation dans leurs entités respectives pour rassurer la population de leur sincérité à pouvoir contribuer au retour de la paix en province. Bunia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que Jean-Claude Katende a été élu vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, par plusieurs délégués défenseurs des droits humains de partout au monde. C'était au cours d'un congrès tenu à Paris cette semaine. Troisième Congolais à accéder à ce poste après Dismas Kitenge du groupe Lotus et Paul Nsapu de la Ligue des électeurs à qui il succède. Jean-Claude Katende est président de l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO, et avocat au barreau de Lubumbashi. Élu par ses pairs pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, il inscrit son mandat dans la lutte pour la promotion et la défense des droits humains en RDC et dans le monde. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Mon mandat va être en fait inscrit dans le cadre des activités de promotion et de protection des droits de l'homme de la FIDH. Je vais m'occuper ensemble avec les autres collègues de toutes les questions de droits de l'homme à travers le monde, mais avec un œil particulier sur l'Afrique et sur la République démocratique du Congo. Ce mandat va me donner certainement l'opportunité de porter à la table des discussions de certaines institutions internationales comme nationales qui s'occupent des questions de droits de l'homme, les dossiers les plus importants concernant l'Afrique et la République démocratique du Congo.
Retour au Nord Kivu pour parler justice à présent. Poursuite hier au tribunal militaire de garnison de Goma du procès du pasteur Jean-Oumari et ses 3 co-accusés, tous poursuivis pour les infractions des kidnappings d'enfants et associations de malfaiteurs. L'audience de ce jeudi a été essentiellement consacrée à l'audition des renseignants, dont le maire adjoint de la ville, ainsi qu'aux officiers de la police judiciaire, de la police qui ont instruit l'affaire à l'instance préjuridictionnelle. Gabriel Ouamini à nous en dit plus.
Le premier à comparaître en cette qualité, c'est le commissaire urbain de la police, le colonel Job Alissa. Répondant aux questions du tribunal, Job Alissa est revenu largement sur les péripéties des faits qui ont conduit à l'arrestation du pasteur Oumari et ses 2 co-accusés, dont l'un d'eux est un repris de la justice après avoir été condamné en 2017 à la peine de mort pour les mêmes faits. Tout au long de sa déposition, le commissaire Alissa a reconnu avoir effectué des descentes sur le terrain avec les 2 prévenus, dont Toumoussifou et Rodrigues. C'est avant de passer l'instruction à l'OPG, un certain Leblanc qui a entendu différemment les 2 suspects. Dans la foulée, le commissaire Job Alissa a dévoilé les menaces de mort dont il fait l'objet depuis le début de l'instruction de cette affaire au tribunal. Sans être exhaustif, mon souci est que la justice soit équitablement rendue et les enfants disparus depuis plus de 4 ans soient retrouvés vivants ou morts, a conclu le colonel Job Alissa. Quant aux 2 co-accusés du pasteur Jean-Oumari devant la barre, c'est la contradiction en contradiction. Ce qui pourrait, à l'issue de l'instruction, décharger tant soit peu les prévenus Jean-Oumari. Goma, Gabriel Ouameya, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, le militaire ayant tué un motard le 18 octobre dernier à Luama est procédé à son enterrement dans une parcelle en chantier avant de lui ravir sa moto et condamné à la peine capitale. C'était le mercredi 26 octobre après une audience foraine organisée au camp militaire Luama. Le compte-rendu de Florence Kizalunga.
L'auteur du crime, le soldat de première classe Chiamba Kayembe Santos, a été condamné à la peine capitale pour meurtre et au paiement des dommages et intérêts de 100 000 $ américains à la famille du défunt. Pour rappel, le regretté Luanga Ombeka André avait été retrouvé mort, enfoui dans le sol par les services de sécurité 48 heures après qu'il soit recherché par sa famille. Luanga Ombeka André était licencié en droit et avait participé au concours de la magistrature organisé dernièrement. Il laisse derrière lui une veuve et 4 orphelin. Signalons que l'audience a été présidée par le lieutenant-colonel magistrat Kadima Konzi, président du tribunal militaire des garnisons de Kindu, avec le concours du major magistrat Diedoné Kigoma, auditeur militaire des garnisons de Kindu comme ministère public. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
L'invité. La cérémonie de tirage au sort des 9e Jeux de la Francophonie aura lieu demain samedi 29 octobre au Pullman Hotel de Kinshasa. Cette cérémonie sera présidée, sauf changement, par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé en présence des ambassadeurs des pays francophones. Plusieurs autres invités de marque, dont Claude Makélélé, ancien footballeur, et Didier Mbenga, champion NBA, seront de la partie. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le directeur national des 9e Jeux de la Francophonie, Isidore Nkwanja. Ils s'entretiennent avec Vanessa Nkongolo.
Monsieur Isidore Kwanja, bonjour.
Bonjour madame.
À quelques heures du tirage au sort, est-ce que vous pouvez nous dire que tout est prêt?
Nous sommes en train de travailler. On a commencé à travailler, ça fait maintenant presque un mois et demi. On a recruté une des meilleures agences de la ville qui nous accompagne dans les préparations de cet événement qui est important, qui est le plus grand événement que nous organisons dans le cadre de l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Et je peux vous dire que les choses évoluent normalement et nous serons prêts. Nous allons organiser une belle activité le 29 octobre.
Et où est-ce que cette activité sera organisée?
Nous allons l'organiser dans la grande salle de l'hôtel Pullman. Nous avons mis en place les dispositifs nécessaires pour que toutes ces personnes qui viendront à cette occasion-là puissent être accueillies dans des conditions acceptables.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître le nombre des pays qualifiés pour ces Jeux?
Il y a 42 pays qui avaient exprimé l'intention de participer à la 9e édition des Jeux de la francophonie. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller à la rencontre de tous les pays qui avaient exprimé l'intention, mais qui n'ont pas encore confirmé leur participation, pour que nous puissions les rassurer s'ils ont encore quelques inquiétudes ou préoccupations, que nous puissions répondre à leurs préoccupations et que nous puissions faire en sorte qu'il y ait une grande participation pour cette 9e édition.
Justement, par rapport aux préoccupations, est-ce que vous avez déjà travaillé pour la facilitation de l'octroi des visas pour les pays qui vont participer?
Nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, il y a des jours, j'ai été reçu par les autorités de la DGM avec lesquelles nous avons discuté pour trouver une façon de travailler pour faciliter l'obtention des visas. Nous avons trouvé une formule que nous allons appliquer, donc nous allons traiter ensemble avec la DGM, ce qui va faciliter l'obtention des visas. Donc cet élément est important parce que nous allons aller à la rencontre des États pour les rassurer que nous avons trouvé une solution. Et ce qui est encore beaucoup plus avantageux, c'est que les autorités congolaises ont dit que ces visas-là seront gratuits pour les athlètes.
Les Jeux de la francophonie, ce n'est pas seulement les sports, mais c'est aussi la culture. Est-ce qu'au niveau des activités culturelles, qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette grande cérémonie?
Le jeu, comme vous le savez, il y a 9 activités sportives, il y a 11 activités culturelles. Pour les activités culturelles, justement, on a eu beaucoup d'avancées parce que je peux vous dire que même lorsque l'OIF a accepté de nous donner l'organisation de cette 9e édition, c'est surtout parce que nous avions toutes les infrastructures culturelles en place. Les volets culturels, on avait toutes les infrastructures et on est en train de mettre en place maintenant tout ce qu'il y a pour que ça se passe convenablement. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de difficultés. Les difficultés, c'est surtout au niveau sportif où on se bat pour que nous puissions terminer les infrastructures dans les délais.
Parce que vous parlez des infrastructures, est-ce que le village de la francophonie est aussi prêt?
Le village de la francophonie est prêt à 99% parce que l'autorité a levé l'option de loger les athlètes à l'université de Kinshasa, ce qui est une bonne chose pour les étudiants de l'université de Kinshasa parce qu'on va faire des investissements importants, notamment pour la fibre optique, notamment pour l'eau et l'électricité, notamment pour le réaménagement donc de la voirie à l'intérieur de l'université. Notamment, on va clôturer les sites de l'université. Ce sont des investissements importants qui vont profiter aux étudiants. Et on a eu une réunion importante du conseil d'orientation du comité international des Jeux de la francophonie, qui est l'organe technique qui fait des propositions techniques pour que les représentants des chefs d'État et de gouvernement puissent prendre des décisions. L'objectif aussi des Jeux, c'est de laisser des legs. Et là, à l'université de Kinshasa, nous allons laisser des legs importants pour nos jeunes. Et d'ailleurs, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, quand il a accepté d'organiser les Jeux de la francophonie, c'était pour investir dans la jeunesse. Nous attendons la réunion le 8 novembre du Conseil permanent de la francophonie qui réunit les représentants des chefs d'État et de gouvernement pour adopter définitivement cette proposition qui a été faite par le gouvernement congolais.
Monsieur le directeur Isidore Kwanja, merci.
Le directeur national des 9e Jeux de la francophonie répondait aux questions de Vanessa Nkongolo. C'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rongchinge, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix en compagnie de Baya Tchamala.